Bonsoir. Élection ce week-end des gouverneurs des 21 nouvelles provinces. La majorité présidentielle a gagné 14 provinces sur 20, dont l'une est en ballottage. Les indépendants, 5 provinces, aucune pour l'opposition jusque-là. En réaction, la MP se félicite de ce scrutin, tandis que l'opposition affirme que les règles du jeu étaient biaisées d'avance. Quelle analyse faire de cette élection? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 28 mars 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats André Alain Atundu, il est porte-parole de la majorité présidentielle. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment dans ce studio avec moi, Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC, parti politique de l'opposition. Monsieur Mamba, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Jeff Modimbi, professeur à la faculté des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Merci parce que vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Lokana de Réti dans la province de l'Ituri. L'honnêteté oblige que la majorité présidentielle soit félicitée pour avoir fait élire environ 14 de ses membres au poste de gouverneur. Malheureusement, des voix s'élèvent comme quoi, à part le mot d'ordre donné, l'argent a aussi circulé. Nous déplorons ce genre de comportement. Ainsi donc, nous disons que le mal est profond. Le politique congolais en général est vicieux, profondément corrompu. Cet état des choses durera encore pendant longtemps. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les députés provinciaux des 21 nouvelles provinces ont élu samedi 26 mars les gouverneurs et vice-gouverneurs. La majorité présidentielle qui sort grande gagnante de ces scrutins, d'après les résultats provisoires publiés par la Commission nationale électorale indépendante, remporte 14 provinces sur 20, dont l'une est en ballottage. Pour la MP, cette victoire est le résultat d'une politique et d'une campagne efficace. À l'opposition, on parle d'une élection non démocratique. Jacques, pour les détails.
Il est donc clair, la majorité présidentielle s'est taillée la part du lion, même dans le Tanganyika où son candidat Richard Ngoï Kitangala faisait face à un indépendant Christian Mwando Simba, membre de l'UNADEF, l'un des partis du G7, la stratégie MP a gagné. Cependant, dans la nouvelle province de l'Équateur, le candidat MP Jean-Claude Bayende n'a pas pu l'emporter dans le duel qu'il a opposé à l'indépendant Tony Bolamba. Et les indépendants peuvent se consoler au moins avec 5 postes de gouverneur arrachés à la majorité au pouvoir. Autre enseignement de ce scrutin, c'est que les hommes ont été gourmands. Tous les postes de gouverneur pourvus jusqu'ici sont occupés par eux. Et cela se passe au mois de mars, mois dédié à la femme. Mais la femme peut se consoler avec 5 postes de vice-gouverneur dans sa gibecière. Autre évidence à souligner, c'est que l'élection s'est passée globalement dans le calme. Le président de la CENI s'en félicite. Mais Corneille Nangaa garde une fausse note, certains candidats se sont permis d'arpenter les artères des villes dans des véhicules pour battre campagne, ce en violation de la loi électorale. Celle-ci désigne un seul lieu prévu à cet exercice, la salle abritant les sièges de l'Assemblée provinciale. Selon le numéro 1 de la CENI, la justice devra se prononcer dans ces cas.
Merci Jacques Molima pour tous ces détails. André Latundou, je rappelle que vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle. Bonsoir. La MP sort grande gagnante de ce scrutin. Comment vous justifiez cette victoire?
Il faut préciser, en toute logique et transparence, c'est l'efficacité de notre stratégie. Nous n'avons pas hésité à jeter dans la bataille tout ce que nous avions comme intelligence, volonté, engagement personnel pour soutenir nos candidats, pour les encadrer durant la campagne. Et le résultat n'apparaît que plus logique.
On a senti une majorité très impliquée, très investie dans cette élection, contrairement aux élections passées. Qu'est-ce qui se trame derrière cette implication très active?
À toute élection, nous sommes toujours impliqués. Mais seulement, la différence, c'est qu'ici, c'est une élection au second degré. Et donc, les personnes engagées sont plus visibles. Tandis que pour les campagnes... pour les provinciales, les législatives, c'est sur toute l'étendue de la République, auprès de la population, c'est moins visible sur le plan médiatique.
Alors, André Alain Toundou, on accuse la majorité d'avoir intimidé et menacé les députés provinciaux. Comment vous répondez à toutes ces accusations?
Dans la vie, il faut savoir être bon perdant, n'est-ce pas? Il ne faut pas cacher son impuissance à mener une campagne victorieuse devant des déclarations stéréotypées, n'est-ce pas, du genre intimidation, utilisation de l'argent et je ne sais quoi encore. Nous avons été les meilleurs. Nous avons été les meilleurs parce que nous nous sommes adressés aux trois compartiments essentiels de la personnalité humaine, à savoir l'intelligence. Nous sommes adressés à leur intelligence, nous nous sommes adressés à leur cœur, et nous sommes adressés à leur conscience. Alors, lorsque vous avez réussi à convaincre une personnalité sur ces trois plans, il ne fait pas de doute que le résultat sera celui que nous célébrons aujourd'hui, à savoir la victoire sans appel et surtout sans bavure.
Et donc, vous rejetez en bloc toutes ces accusations?
C'est futile. Et que dire dans les endroits où vous avez dit qu'il y a cinq gouverneurs indépendants? Et comment? Ils ont corrompu? Je crois qu'il
vous
faut...
Vous n'avez pas réussi à corrompre les députés dans ces nouvelles provinces.
Il faut cesser de tenir ce genre de propos qui décrédibilisent et déconsidèrent nos députés provinciaux. Ce sont des gens qui agissent d'après leur conscience, d'après leur intelligence et d'après leur cœur. Il faut savoir le conquérir sur ces trois plans. Et vous aurez le résultat attendu.
Alors, il y a aussi, parmi les 14 provinces, dont la majorité a raflé aucune femme à la tête de ces provinces.
Moi, si.
Comment vous, comme gouverneur?
Si, parce qu'au nord Ubangi, la lutte n'est pas encore terminée. Et Mme Guerengo...
Jusqu'à ce soir, il n'y a pas de...
Et Mme Guerengo est là. Et donc, nous lui donnons toutes les chances. Donc, ça, c'est de 1. De 2. Les femmes sont dans 5 tickets, tout en dans ce confondu. Et de 3, ce n'était pas une compétition sexiste ou paritaire. C'est une compétition politique où l'on doit verser dans la bataille les meilleurs des siens pour pouvoir gagner la mise. Eh bien, les femmes qui sont dans le ticket, n'est-ce pas, et qui sont candidats au gouverneur, sont les meilleurs parmi les hommes, parmi toutes les personnes politiques. Et par ailleurs, je crois que c'est une mauvaise idée de déconsidérer la fonction de vice-gouverneur. Un vice-gouverneur, c'est un gouverneur à temps plein. C'est tout simplement, parce qu'il y a un titulaire, comme on dit en philosophie, là il y a ordination, là il y a multiplicité. Il y a ordination, il faut bien qu'il y ait un, il faut bien qu'il y ait un deux. Mais toutes les femmes qui sont vice-gouverneurs sont parfaitement capables d'être de gouverneur.
Alors, Massini a accusé, a fustigé le comportement de certains candidats gouverneurs qui ont battu campagne en dehors de l'hémicycle, et parmi ces candidats figurent certains de la majorité présidentielle.
Et pourquoi pas ceux de l'opposition? Parce que je viens de mon gala où, après la campagne, un candidat a réuni la presse et a déclaré « Je me retire, mais je donne ma voix ou mes voix à tel tel ». Ce sont des comportements de dérapage, si vous voulez, et comme l'a dit le président Langa, la justice devra s'en saisir si quelqu'un s'en plaint.
Alors, il y a Dieudonné de Goma qui nous écrit, il dit ceci: que dit M. Atundu des menaces auxquelles ont fait face certains députés provinciaux avant le vote? Cela fait-il aussi partie de la stratégie de la majorité présidentielle pour se faire voter? Accepte-t-il que ces députés dénoncent publiquement ce genre de pratiques afin de donner plus de crédibilité aux prochaines élections en RDC?
Il n'y a pas eu de menace. Il ne faut pas confondre. Vous savez, un combat politique... c'est d'abord savoir exposer ses idées, c'est-à-dire ce qu'on veut, ensuite persuader et amener les gens à adhérer à ce que vous avez voté. Alors, il ne faut pas confondre la force de l'argumentaire et votre incapacité à faire autant que votre adversaire. Nous, nous avons dit, nous avons sollicité la personne candidate sous toutes ses dimensions, n'est-ce pas, le corps électoral, sous toutes ses dimensions. Eh bien, à certains endroits, on n'a pas réussi. Vous avez vous-même dit, voilà, on a échoué là. Et on s'en plaît pas. C'est ça, la démocratie. Il faut savoir...
Et là, la campagne n'avait pas été bien menée dans les provinces où vous n'avez pas
non,
réussi.
Non, il ne s'agit pas de... Parfois, on n'a pas la baraka. On a bien mené, mais on n'a pas eu la baraka. Et encore que dans certaines provinces, nous avons identifié un certain nombre d'irrégularités et nous sommes en train de saisir, de nous préparer à saisir la cour d'appel pour que...
Quelle province par exemple?
Mongala.
Merci André-Alain Atundu, Jean-Jacques Mamba, porte-parole du MLC. C'est un parti politique de l'opposition. Comment vous analysez cette élection des gouverneurs?
Merci. Écoutez, le laïus développé par M. Atundu m'oblige, je n'ai peut-être pas le choix ici, de présenter des félicitations les plus sincères hein, provenant du MLC et de l'opposition, on peut le dire comme ça, parce que tout était tellement parfait. J'ai ouï dire des expressions du genre en toute logique et transparence, intelligence, il y a beaucoup de choses que j'ai entendues. Et vraiment, vous méritez nos félicitations. J'espère que vous allez les recevoir dans un esprit de quiétude. Alors, j'aimerais quand même faire trois observations. Ces félicitations, elles s'accompagnent de trois observations qui sont, à mon sens, pertinentes. D'abord, c'est une victoire qui est asynchrone. Dans le sens où, vous allez peut-être voir, il y a plusieurs endroits, donc je vous cite ici l'Ituri, le Tanganyika, où ça a tiré. Il y a eu des troubles à l'ordre public, les populations étaient mécontentes. Il y a des endroits comme Bandaka, où la population était totalement en déphasage avec le choix opéré par les députés provinciaux. Et donc, dans une démocratie qui fonctionne, il n'y a que deux choses pour gagner une élection. La première, c'est que vous avez des bonnes idées que vous vendez, c'est-à-dire que des gens adhèrent à votre projet, ce que M. Atundu appelle, son excellence appelle l'intelligence. Et la deuxième, vous avez soit des performances que vous pouvez défendre. Dans le cas échéant, nous sommes en face d'une majorité qui est 10 ans au pouvoir, et l'on peut supposer que ce vote-là traduit, au fait, les performances de son gouvernement durant 10 ans. Malheureusement, comme je le dis, la première observation, c'est asynchrone, parce qu'un gouvernement qui n'a réussi à rien faire, ni organiser les élections, ni payer les fonctionnaires, parce que je tiens à vous dire que le contexte, et on en parlera peut-être très rapidement, les fonctionnaires ne sont pas payés, les députés ne sont pas payés, donc une majorité aussi incapable, je ne peux pas comprendre le fait qu'on lui redonne la confiance, comme si c'était mécanique, comme si en position victimaire on devrait aller vers la majorité pour qu'elle continue à nous torpiller. Donc je dis bien que c'est une victoire asynchrone. La deuxième observation, je dirais que c'est une victoire qui est relativement marginale. J'appellerai ici l'excellence à avoir un peu de modestie parce qu'il s'agit d'un suffrage indirect où seuls les députés provinciaux pouvaient voter. Nous nous rappelons très bien que l'UDPS n'a pas participé parce qu'elle n'a pas de députés provinciaux, que l'UNC n'en a pas, ce sont des grands partis que nous respectons, et que donc lorsque...
Le MLC a participé.
Nous avons participé, nous avons aligné 5 candidats, on a invalidé un candidat, nous avons remporté, parce que là vous ne l'aviez pas dit, à la Mongala, parce qu'apparemment M. Atundu dépend de la Mongala, parce que son chef il est maintenant du MLC, hein, c'est un député MLC, qui s'est présenté comme indépendant. Hein,
présenté comme indépendant,
oui,
mais pas comme...
Oui, mais ça c'est dans le cadre des stratégies politiques, hein, M. Kabila était indépendant, mais il est soutenu par la majorité présidentielle.
Mais
donc,
on dirait qu'il est indépendant.
Ça, c'est officiellement, mais c'est l'autorité morale de la majorité présidentielle. Donc, ça, ce sont des cas de figure, comme le dit le chef de l'État, la démocratie à la congolaise. Donc, voilà. Le poste de Mongala revient au MLC, c'est un député MLC, M. Simba, qui est là. Et donc, j'étais en train de dire que c'est relativement marginal, d'autant plus que la plupart des autres partis de la majorité qui n'avaient pas les députés provinciaux n'ont pas participé à ce scrutin. Donc, on pouvait faire du 21 sur 21. Je suis assez surpris et dubitatif du fait qu'on ait que 14 députés sur, bien qu'il y ait des félicitations. Donc pour moi, c'est assez marginal et je vais le circonscrire de cette manière. Et pour terminer, madame.
Mais du côté de l'opposition, surtout du côté du MLC, on dit que les règles du jeu étaient biaisées d'avance, mais pourquoi avoir...
Je vais en venir, madame. J'ai parlé du fait que c'est un vote qui était une victoire asynchrone, relativement marginale. Et puis, le contexte économico-social ne s'y prêtait pas, madame. Vous savez combien de fois on a fermé des assemblées provinciales à l'Équateur? On a fait une pression, c'est-à-dire l'incapacité du gouvernement a été traduite par le non-paiement de ces 10 députés. Les députés nationaux ne sont pas payés, les sénateurs ne sont pas payés. Sur place, ces personnes ont subi des pressions sociales parce qu'elles sont restées dans des moments d'inactivité
Il dépendait totalement du ministère de l'Intérieur qui pouvait un matin dire qu'on fermait l'Assemblée et ces gens se retrouvaient sans travail, donc on a suspendu ces différentes assemblées. Vous avez la violation de l'éthique démocratique lorsque vous voyez un président de l'Assemblée nationale qui est par ailleurs le président, le secrétaire général de la majorité présidentielle, qui va battre campagne, c'est-à-dire alors qu'il n'arrive pas déjà à réguler la situation qui est au sein de son assemblée, il affrète un avion avec les frais de l'État pour aller battre campagne pour sa famille politique. Vous avez des invalidations arbitraires, et là on a des questionnements par rapport à la CENI, parce qu'elle a choisi d'invalider des personnes à son gré, sur caprice de la majorité présidentielle. Vous avez plusieurs provinces où vous avez des candidatures uniques. Je n'ai jamais vu un pays où il n'y a pas d'ambition, donc il suffisait que la CENI déclare que quelqu'un n'est pas candidat pour qu'il n'y soit pas. Vous avez... on a un peu tout dit.
Et donc, vous pensez qu'il y a eu pression sous les députés?
Je confirme qu'on ne peut pas organiser des élections, alors que dans l'entretemps, on conditionne les députés provinciaux dans des situations de non-paiement de leurs émoluments, c'est-à-dire dans des situations de disette, et qu'il y ait des descentes anormalement suspectes des autorités du pays qui, dans une certaine mesure, devaient être à ce niveau-là, avoir la casquette de président de l'Assemblée nationale, dans ce moment-là, être plus ou moins neutre. Mais en ce moment, on nous parle
de secrétaire général de la majorité présidentielle.
Oui, mais c'est ce que nous appelons un État qui est républicain. À un certain moment, il faut pas mélanger les genres. Ici, nous parlons d'une élection en suffrage indirect. Il ne va pas battre campagne contre un député provincial qui n'est pas de son rang. Il est président de l'Assemblée nationale, c'est au niveau national, nous le respectons pour cela. Mais lorsqu'il descend, parce qu'il est presque sûr que sans sa descente, ça ne peut pas fonctionner, nous disons qu'il laisse l'Assemblée avec des problèmes, comme par exemple l'impaiement des députés nationaux.
Merci, M. Mamba. Je vous donne la parole tout à l'heure. Professeur Jeff Modindi, professeur à la Faculté des sciences politiques et administratives à l'Université de Lubumbashi. Professeur, quelle est votre lecture de cette élection des gouverneurs qui a eu lieu samedi dernier? Professeur, vous êtes en ligne? Je crois qu'on a perdu le professeur. La réalisation va essayer de le retrouver. En attendant d'avoir le professeur, M. Atundu, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Likasi dans le Haut-Katanga.
Yaline Goy, depuis Likasi dans le Haut-Katanga. À mon avis, je pense que la majorité présidentielle ne devait pas s'en féliciter et respecte la Constitution, ce qui sera un très grand motif de fierté pour elle. Elle est consciente des moyens qu'elle a utilisés pour obtenir les voix des députés, qui du reste ont déjà perdu leur légitimité. Menaces, corruption, calomnie, tribalisme sont des antivaleurs qui sont bannis de la société. Nous attendons la présidentielle pour voir si elle saura corrompre les 50 millions de Congolais.
Alors, on revient encore sur cette histoire de corruption, M. Atundu.
Je crois que sur ce plan, il faut peut-être révéler les évidences. Il faut révéler les évidences. Aucune organisation ne se fait sans apport intellectuel, sans apport financier, sans apport humain. Alors, je ne sais pas si les députés ou les candidats qui ne sont pas de l'AMP n'ont dépensé aucun franc. Non, la majorité présidentielle est une grande organisation. Nous faisons des cotisations. Et nous sommes organisés. Alors, vous n'allez pas nous reprocher de mener la politique de nos moyens.
Vous avez motivé ces députés provinciaux avec vos cotisations?
Mais non, madame. Si je vous demande de recevoir les journalistes de Radio Okapi, je dois vous donner les moyens, parce qu'il faut les recevoir. Qu'est-ce que c'est qu'une campagne? C'est persuader autour d'un verre, autour d'un repas, dans une promenade, etc. Donc c'est normal. Mais dites-moi ce pays-là où une campagne se fait sans argent. Alors on reste chez soi. Non, madame, ne prenons pas notre peuple pour un peuple ignare, des béotiens. Non, le peuple comprend et sait. Il faut pouvoir parler à ces trois paramètres de la personnalité humaine, l'intelligence, le cœur et la conscience. Et là, nous avons réussi. J'ai entendu que nous n'avons pas à être fiers de notre victoire. Non, il est évident que dans le monde, rien n'est parfait. Mais ce n'est pas pour autant que rien de bien ne se fait. Les élections n'ont pas été certainement pas parfaites, parce qu'il y a des recours, etc. Mais c'était bien organisé, c'était crédible. Et puis, il y a une confusion du genre entre élection au second degré et élection, j'allais dire, primaire. C'est normal qu'il y ait éventuellement une dissension entre ce que le peuple attend et ce que l'électeur, disons l'électeur second, donne. Il a donné le cas, je ne sais pas, de Mbandaka. Mais à l'Issala, les gens n'ont pas fêté. Les gens n'ont pas fêté. Ils disent, mais c'est pas possible, c'est ça. Et c'est encore nous qui disions, mais c'est ça la démocratie. Ce n'est pas encore votre tour. Attendez votre tour lorsqu'il s'agira de choisir les députés provinciaux, les députés nationaux et le président de la République. Et puis j'ai senti, je ne sais pas, c'est une déconsidération. Est-ce qu'il y a un rang entre les députés? Est-ce que les députés provinciaux sont moins importants que les députés nationaux? Non. Et c'est la première fois que l'on voit un acteur politique en fonction s'investir pour son pays. Et donc, monsieur...
En tant que président de l'Assemblée nationale,
non, qu'il en tant que secrétaire général...
Donc il est parti là-bas sous la secrétaire général.
Non, en tant que secrétaire général de la majorité présidentielle. Il est dans son droit. Autant que les gens qui aiment des comparaisons, le premier ministre Vasse se dit, bon, je vais soutenir tel candidat. Il y a même des présidents de la République qui vont soutenir tel candidat. Et alors? Si, par exemple, vous avez le soutien du président de la République qui voudrait aller vous voir sur le terrain, on ne va pas le dépouiller des exigences de nécessité parce qu'il va appuyer quelqu'un. C'est ça, c'est la rente de situation, madame. S'ils étaient présidents, s'ils étaient présidents de l'Assemblée, ils agiraient de la même façon, avec la même protection de la loi.
Alors donc pour vous, cette élection était démocratique, les députés provinciaux ont élu leur gouverneur en toute liberté.
Tout à fait, sans contrainte.
Merci, on me signale que le professeur est en ligne. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Alors professeur, quelle lecture vous faites de cette élection des gouverneurs des 21 nouvelles provinces?
Ok, merci beaucoup madame pour la question que vous me posez. Et je voudrais saluer M. Alain et M. Jean-Jacques. Et à première vue, nous allons jeter des fleurs à la majorité présidentielle. Parce que la majorité présidentielle a eu des objectifs bien clairs de gagner la majorité des postes au niveau de chaque province. Et la majorité a mobilisé des moyens nécessaires et elle est arrivée réellement grâce à cet objectif. Donc nous pouvons déjà dire qu'à ce niveau, la majorité a fait preuve de beaucoup d'efficacité. Mais cela ne suffit pas. Nous pouvons aussi tourner la médaille de l'autre côté pour analyser d'abord l'électorat. Madame, vous comprendrez que l'électorat est celui de 2005. Alors, en 2005, certains partis à grande importance démographique que nous avons connus en 2011 n'ont pas participé, donc n'avaient pas de députés. Tel est le cas de l'UDPS, tel est le cas de l'UNC, notamment. Alors, à partir de là, cette victoire, elle était déjà prévisible parce que les différentes assemblées étaient déjà presque gagnées à la cause de la majorité. Alors, devant l'absence des calibres politiques, des grosses calibres politiques, je peux me permettre de dire que réellement la majorité présidentielle a vaincu sans péril et de ce fait elle ne peut que triompher sans gloire.
Et donc il fallait s'attendre à cette victoire de la majorité présidentielle.
Vous dites, madame.
Il fallait s'attendre à cette victoire de la majorité présidentielle.
Oui, donc il fallait déjà s'y attendre. C'est ici que je voudrais d'abord rappeler aussi une chose. Bon, je sens que le candidat de la majorité présidentielle est en train beaucoup plus d'établir sur la conscience, sur le cœur. Mais nous sommes sans ignorer que actuellement la démocratie accuse certaines déficiences. Les déficiences sont liées, entre autres, au fait que on a introduit dans les mécanismes de l'élection ce que je peux aussi appeler des mécanismes de conditionnement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas déclarer vraiment avec la main au cœur que l'argent n'a pas circulé, qu'on n'a pas amené les uns les autres d'une manière ou d'une autre à les conditionner à choisir pour tel candidat plutôt que pour tel autre. Mais l'évident est que vraiment la majorité, et la plupart des députés étaient déjà acquises à la cause de la majorité, et surtout, et nous allons aussi souligner le fait que la condamnation par exemple de Jean-Pierre Mbemba pouvait aussi jouer un rôle important sur le moral des députés du MRC, qui pouvaient peut-être trouver mieux maintenant de se rallier au camp de la majorité en élisant les candidats que cette majorité a pu proposer. Donc ce sont là autant de facteurs qui expliquent cette victoire de la majorité. Mais j'insiste en disant, la majorité a fait preuve de beaucoup d'efficacité parce que lorsqu'on s'est fixé des moyens, des objectifs, on doit aussi arriver à mobiliser les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs-là. Et de ce côté, coup de chapeau, l'AMP a réussi. Mais dans quel contexte électoral, avec quel électorat? C'est pourquoi j'affirme encore une fois de plus que la majorité, la majorité présidentielle a réussi à vaincre sans péril. Et elle ne peut que se permettre de triompher sans gloire.
Alors, professeur, il y a cet auditeur qui nous écrit depuis l'Ituri, la province de l'Ituri, il s'appelle Lokana. Il dit ceci, l'ETT oblige que la majorité présidentielle soit félicitée, comme vous l'avez dit vous-même, pour avoir fait élire environ 14 de ses membres au poste de gouverneur. Malheureusement, des voix s'élèvent comme quoi, à part les mots d'ordre donnés, l'argent a aussi circulé. Nous déplorons ce genre de comportement. Ainsi donc, nous disons que le mal est profond. Le politique congolais, en général, est vicieux, profondement corrompu. Cet état de choses ne doit pas perdurer.
Ok. Madame, je préfère que nous cessions de rêver et que nous puissions avoir les pieds sur terre. Dans tous les pays au monde, à peu de choses près, la démocratie, c'est vrai, même si on peut dire que c'est l'expression de la majorité du peuple, mais dans toute démocratie à travers le monde, il existe toujours des mécanismes de conditionnement. Ces mécanismes de conditionnement peuvent être soit l'argent, peuvent être l'intimidation, peuvent être peut-être le projet que l'on présente qui rencontre l'assentiment de la population, etc., etc. Donc ces mécanismes font que certaines personnes peuvent se prononcer en faveur de certains candidats qui ne pouvaient pas le faire si ce mécanisme de conditionnement n'était pas là. Mais il est vrai que si réellement on savait que face à la majorité présidentielle a utilisé tel moyen, mais pendant ce temps, que faisaient les candidats de l'opposition? Croiser les bras et subir l'action de la majorité? Et c'est par là que nous disons que la majorité a fait preuve d'efficacité, mais il appartenait aussi à l'opposition de mobiliser parfois beaucoup de moyens, de faire plus que la majorité pour arriver aussi à réaliser cet objectif-là.
Alors, professeur, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Placide Mutombo, j'appelle de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. À mon avis, les résultats enregistrés par la majorité présidentielle à l'élection de gouverneur est la conséquence logique du décor qui était déjà planté en avance par celle-ci, car la majorité des députés qui ont voté le gouverneur viennent de la majorité présidentielle. Quoi de plus normal que cette plateforme puisse l'emporter dans 14 provinces sur 20? Les élections de gouverneurs élus par des députés provinciaux non hors mandat ont été acceptées démocratiquement par tout le monde et ont eu beaucoup de légitimité aux yeux des Congolais, contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui.
Vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne. Est-ce que vous avez un peu compris la réaction de cet auditeur, professeur?
Oui, madame, j'ai bien suivi l'auditeur. Je me dis que l'auditeur m'a rejoint. Il a compris parce que le terrain était déjà balisé et il fallait déjà s'y attendre. La victoire de l'AMP n'a pas été ici une surprise pour la plupart des Congolais.
Il pense que l'élection des gouverneurs élus par les députés provinciaux, non, hors mandat aurait été accepté démocratiquement par tout le monde, aurait eu beaucoup plus de légitimité aux yeux des Congolais, contrairement à ce qui s'est passé, ce que nous vivons aujourd'hui.
Oui, je sais. Bon, effectivement, il a raison, mais c'est le problème que nous allons rencontrer dans les jours à venir, parce que lorsque la CENI aura présenté le calendrier global, et que on arrive maintenant à élire les nouvelles assemblées provinciales, effectivement, nous allons connaître encore un petit problème avec ces nouveaux gouverneurs. On ne sait pas s'ils sont élus réellement pour un mandat de 5 ans ou bien ils sont élus conjoncturellement pour éviter face à l'anticonstitutionnalité ou de commissaires spéciaux que nous avons connus. Mais ce qui est évident, ça aurait encore donné beaucoup plus de légitimité si les gouverneurs étaient élus par des nouvelles assemblées. Mais nous devons reconnaître que ces nouvelles assemblées, même si on peut dire qu'elles sont hors mandat, mais la Constitution soutient que, dispose que, tant que les nouvelles chambres ou les nouvelles assemblées ne sont pas convoquées, les anciennes assemblées, leur mandat peut être prorogé. Donc c'est à ce niveau-là. Mais bref, je voudrais quand même ajouter un élément pour inviter l'opposition à ne pas seulement rester à dénoncer il y a eu cela. Mais en attendant, pendant que vous êtes en train de dénoncer, mais vous subissez la règle de la majorité présidentielle. Donc il faut avoir des objectifs bien précis et en plus de cela, mobiliser les moyens pour atteindre les objectifs. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de parler du respect de la Constitution, du respect de la Constitution. Nous ne voulons pas le glissement. Mais concrètement sur terrain, qu'est-ce que l'opposition est en train de faire pour que le respect de la Constitution soit réalisé? Mais dans l'entretemps, la majorité est en train de gagner des pions à l'opposition petit à petit parce qu'elle sait au moins mobiliser les moyens pour atteindre ses objectifs.
Merci, professeur Jean-Jacques Mamba. Nous avons aussi une réaction pour vous qui nous vient encore une fois de Lubumbashi.
Trésor Kalala Maluba à Lubumbashi. Il est vrai que les résultats tels que présentés reflètent le travail et le déterminisme de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, que l'opposition ne cherche pas à nous faire gober le propos qui ne tient pas debout. Si on accuse la majorité présidentielle d'avoir utilisé l'argent, les menaces et Kékéri, est-ce que les élus provinciaux de l'opposition sont-ils des petits enfants qui ne réfléchissent pas? Dire qu'ils prennent l'argent, cela implique qu'ils ne sont pas crédibles. Il y a un problème d'organisation dans ces pays. La majorité présidentielle en tête, toujours parce qu'elle s'organise et elle cherche toujours à conserver le pouvoir, chose que l'opposition n'arrive pas à faire.
Réaction, Jean-Jacques Mamba.
Écoutez, la réaction est pertinente. J'aimerais revenir sur deux, trois éléments que son Excellence Atundu a cités. Il a quand même reconnu à demi-mot que des moyens ont été engagés, des moyens qui proviendraient des cotisations. Donc c'est avec les cotisations qu'on a frété l'avion du président de l'Assemblée nationale, c'est avec les cotisations qu'on a motivé tous les députés provinciaux. Le président national, de l'Assemblée nationale s'est même permis de convoquer tous les députés provinciaux, je ne sais pas en quelle qualité il peut s'arroger le droit de convoquer même les députés qui ne sont pas de sa famille politique et on ne sait pas pourquoi faire. Donc tout ça, ce sont des questionnements, mais revenons à l'essentiel, madame. Nous disons asynchrone parce que vous avez un pays qui est très mal géré, un pays qui est incapable de payer ses fonctionnaires, qui est incapable de faire quoi que ce soit, qui après 10 ans est dans l'incapacité de protéger les Congolais, qui se voit remporter une élection à suffrage indirect soit-elle, et qu'on nous dise que c'est la force de l'argumentaire. Je veux savoir de quel argumentaire s'agit-il. Est-ce que ce sont des promesses électorales? Est-ce que ce sont des choses qui ont été faites? C'est ça la vraie question. Donc si aujourd'hui nous prenons un observateur indépendant, quelqu'un qui est en dehors et qui doit vérifier et faire une étude, une analyse scientifique pour expliquer la corrélation qui existe entre les différentes conquêtes de la majorité présidentielle et les résultats sur terrain en termes de réalisation, cette corrélation n'existe pas. Donc ce chercheur va aller beaucoup plus loin pour vérifier quels sont les moyens de pression. Maintenant, lorsqu'on dit qu'on conditionne les gens même à l'étranger, madame, dans quel pays on va se priver de payer, on va organiser la non-paye des élus, on ne payera pas les policiers, on ne payera pas les fonctionnaires, et pour avoir des résultats comme on les a, ou lorsque quelqu'un qui a fait 3 ou 4 mois d'impaiement reçoit une enveloppe pour voter, il est conditionné parce qu'il a une famille. Il a été élu et il n'appartient pas à l'exécutif de s'arroger le droit de ne pas le payer.
Donc, moi, je pense peut dire que comme cet auditeur le dit, les députés de l'opposition qui ont accepté de se faire conditionner ne sont pas crédibles.
Mais madame, on ne parle pas de crédibilité. Nous parlons d'un pays dans lequel le chef de l'État vous dit qu'il y a 15 milliards qui disparaissent chaque année. Il est incapable de savoir où ils vont. Nous sommes dans un pays où, à la tête, l'impunité est reconnue et avalisée et rien ne se fait. Nous avons un pays où on vous dit que les portes des prisons sont ouvertes pour ceux qui corrompent et rien ne se fait. Donc nous sommes dans un pays où, lorsque le chef ou le gouvernement ne donne pas le bon exemple, eh bien, la population suivra cet exemple. Donc une personne qui fait 4 mois sans être payée, ce n'est pas encouragé, mais je pense qu'elle est beaucoup plus vulnérable qu'une personne qui reçoit ses émoluments en bonne et due forme. Une personne qui fait son travail et un travail qui est respecté, c'est des conditionnements qui sont totalement différents. Et aujourd'hui, lorsqu'on me parle de l'organisation de la majorité présidentielle, je suis écœuré parce qu'on organise, on est organisé lorsqu'on gère bien. On n'est pas organisé pour gagner frauduleusement. On organise bien lorsqu'on a des résultats, des performances socio-économiques. Alors en ce moment-là, on peut dire qu'on a une majorité organisée. Mais là, on a une majorité incapable sur tout, alors tous les plans, qui, bizarrement, est champion aux élections.
Mais est-ce que l'opposition s'est préparée par rapport à cette élection?
Madame, comment voulez-vous... dans quel contexte on se prépare? Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Nous faisons, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des requêtes qui sont faites, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau de la CENI, mais qui ne sont jamais écoutées. Combien de lois dans ce pays sont empiétées? Quelle est la loi qui peut expliquer aujourd'hui qu'un député provincial ne reçoive pas son salaire? Il n'y a aucune loi. Donc je veux dire qu'en dépit de la bonne foi, en dépit du fait que nous tirons la sonnette d'alarme pour que les choses se passent correctement, comme dans un état de droit, la majorité en fait fi parce qu'elle a les moyens de l'État. Donc aujourd'hui, on nous dit que le président de l'Assemblée nationale a le droit de faire campagne. Moi, je dirais OK. Mais quand il reviendra à l'Assemblée, il devra justifier à l'Assemblée avec quels moyens il a affrété l'avion. Donc ce que je vous explique, madame, c'est qu'il ne suffit pas de parler d'organisation avec les moyens de l'État. L'organisation se matérialise lorsqu'on a un argumentaire fondé sur le développement socio-économique. On a des indicateurs sérieux. Mais dans ce pays, malheureusement, il n'y a aucun indicateur. La seule chose que je retiens de la majorité, c'est qu'elle est capable de gagner toutes les élections. Vous le savez, à Malemba, il y a eu 103% de votants. Ça, elle est championne, mais pour le reste, je ne vois pas en quoi elle est organisée.
Question d'ordre.
Et donc,
s'organiser.
C'est asynchrone. Mais c'est asynchrone,
le
madame.
Le peuple l'a dit aussi, au niveau de l'opposition, on ne sent pas une certaine organisation.
Madame, on va vous dire combien de fois, madame, parce que nous, par exemple, le MSC, nous faisons une opposition républicaine. Monsieur Essimba, aujourd'hui, qui est notre gouverneur, qui est notre député, qui est de la Mongala, la province de laquelle est issue son Excellence, au jour où il se plaint parce qu'il reçoit des menaces, ça c'est de un, et de deux, les moyens minimaux qui prouve qu'il a gagné cette élection, c'est-à-dire les moyens de l'État pour sa protection, ne lui sont pas attribués. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun garde qui est commis à sa résidence, il n'y a rien du tout. Comment voulez-vous que dans des conditions comme celle-là, à part ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire parler ici, parler à l'Assemblée, que voulez-vous que nous fassions de plus parce que nous sommes républicains?
Merci Jean-Jacques Mamba. Monsieur André Alain Tondou, nous tendons vers la fin de cette émission. Il nous reste encore, il y a encore des élections qui doivent avoir lieu dans le sud du Bangui et le nord. Et la majorité espère gagner ces deux provinces.
Mais rien n'est gagné d'avance, il faut s'engager. Il faut s'engager, éviter de vivre dans l'imaginaire lorsqu'on n'est pas capable d'organiser le concret. Eh bien, il n'y a pas de petites élections chez nous. Et nous ne faisons pas de confusion du genre. Lorsque vous avez une élection, lorsque les députés nationaux, provinciaux, sont et les constituent l'électorat, nous ne nous adressons pas à la population. Non. C'est ça la démocratie. Et je voudrais rassurer M. Mamba. Je viens de Lissala. M. Essimbo n'est pas menacé. M. Bokungu non plus. Sinon, il m'aurait dit. Puisqu'après, ils sont venus me dire au revoir.
Grand frère, vous auriez dit qu'ils sont menacés?
Oui, bien sûr, ils m'auraient dit.
Vous, c'est vous, porte-parole de la majorité?
Non, moi, leur grand frère. Parce qu'ils sont venus me voir, grand frère, eh bien, je dis, bon, félicitations. Nous comptons sur vous. Et alors, quelle menace? Il n'y a pas de menace. Hein? Donc, et puis aujourd'hui, on dit l'élection ne vaut pas grand-chose parce que le poids démocratique des députés, ce n'est pas le poids démocratique des populations. Mais une élection est un instantané. On va aux élections convenues. On ne va pas à toutes les élections. Donc il faut être réaliste. Je note tout simplement que là, si les propos de mon débatteur, n'est-ce pas, traduisent l'état d'âme de la majorité, de l'opposition, je regretterai infiniment. Parce que non seulement ils ont franchement perdu, mais franchement, ils sont des mauvais perdants.
Merci, monsieur André Latour. On va considérer cela aussi comme votre conclusion, professeur Jeff Moudimbi. Vous allez devoir aussi conclure comment vous vous entrevoyez la suite du processus électoral. On a perdu le prof. Malheureusement, il n'y a pas le temps de le rappeler. Jean-Jacques Mamba, venez devoir conclure.
Écoutez, je vous remercie. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que le 14 décembre 2015, le chef de l'État prononçait un discours dans lequel il s'est interrogé sur la possibilité d'avoir une démocratie à la congolaise. Ben, c'est ce que nous sommes en train de vivre, une démocratie totalement asynchrone, atypique, où les perdants sur le terrain, ça veut dire ceux qui n'ont pas de performance, qui n'ont pas de bilan, sont les champions de toutes les élections. En 2011, on est passé de 2 tours à 1 tour. Maintenant, on rafle 14 sur 20, 21 postes. Demain, je suppose que s'il y a des élections provinciales, ils vont tout gagner. Mais on se pose vraiment la question de savoir, ils gagnent sur quelle base? Et ici, j'ai entendu parler de cœur, d'intelligence. Ben, félicitations pour ce travail qui est abattu, mais il faudrait que vous arriviez non seulement à parler, mais que vous arriviez à concrétiser sur le quotidien des gens. Et il se fait que nous sommes dans un pays où on violente les gens tout le temps, ça fait 10 ans, où vous avez pour 100 personnes, vous n'avez qu'un policier qui du reste est mal payé, mal vêtu. Vous n'avez rien qui se fait après 10 ans, et je suis tout à fait circonspect de constater que jusqu'à présent, vous continuez à vous vanter des choses qui n'ont pas de sous-bassement, parce qu'une victoire qui a un sous-bassement en termes de performance de terrain, en termes de performance socio-économique, vous pouvez vous en vanter, mais là où on est dans une forme de théâtre qui n'en finit jamais, raison pour laquelle nous disons en 2016, cette année donc, à partir du mois de novembre, nous aimerions mettre fin à ce théâtre et passer à autre chose parce que vous nous avez déçus. Alors je ne dis pas simplement l'opposition, mais toute la population.
Merci Jean-Jacques Mamba, professeur, vous êtes là?
Oui, je suis là, je vous suis madame.
Alors je disais, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral? Ça sera aussi votre conclusion.
Ok, merci beaucoup. Je voudrais demander à l'opposition de bien vouloir s'organiser, que l'opposition définisse clairement les objectifs qu'elle se propose d'atteindre et qu'elle mobilise aussi les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Et à la majorité, nous demandons vraiment de ne pas utiliser le pouvoir qu'elle a pour vraiment évincer l'opposition et lui arracher tous les moyens de pouvoir s'exprimer.
Merci, professeur. Vous voulez ajouter un mot, M. Tundu?
Je crois que l'honneur est à la démocratie. Notre démocratie fonctionne normalement et celui qui n'est pas content des résultats a la possibilité de faire recours.
Merci M. Atundu, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue Bamso Tungolé, Guy Maté et Alain Kung, sous la supervision de Julien Niamweni. Merci à Dieudonné Nyangasa qui est à la prise de son, micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookati.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.